Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute et heureux de partager ces moments avec vous. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Si je vous dis Costa Concordia, vous pensez à quoi? C'est le nom d'un paquebot de croisière qui a fait naufrage. Bilan, 32 morts. Drame survenu en mer Méditerranée, à proximité de l'île du Giglio, au sud de la Toscane. Hélas, la cause du naufrage n'est pas une tempête subite et hors norme, ou une mine sous-marine égarée dans les parages. Non, le naufrage a été la conséquence d'une fantaisie du capitaine pour plaire à certains touristes. Il a ordonné que le navire se rapproche de la côte, en dépit des règles de sécurité. Et le paquebot a heurté un récif. La coque a été éventrée et a pris l'eau. Naufrage tragique, et d'autant plus douloureux qu'il aurait été évité si les règles de navigation avaient été prises en considération. Ce jour, notre réflexion porte sur divers écueils dont font mention les Écritures, des situations et aussi des exemples négatifs dans la vie de certains hommes. Ces exemples sont rapportés pour nous instruire, afin que nous retenions la mise en garde qui en découle. C'est un conseil indirect, un avertissement qui nous aide à éviter les écueils sur lesquels ont sombré ceux dont les égarements sont relatés dans la parole de Dieu. Nous verrons aussi un enseignement direct et clair donné par Jésus lui-même, lui qui est la parole incarnée, la voix même de Dieu. Son amour pour nous a été prouvé. Et il veut le meilleur pour nous. Il n'a pas honte d'être notre Dieu, se révélant à nous comme le Père céleste, car il nous a préparé une place auprès de lui. Ses conseils sont destinés à nous accompagner dans notre pèlerinage terrestre, à nous d'y être attentifs, et ainsi éviter les écueils du parcours. Arrêtons-nous d'abord sur quelques paroles de Jésus, des mises en garde, glané dans les évangiles. Je lis Luc chapitre 12 verset 15. Gardez-vous de toute avarice. La Bible en français courant traduit le mot avarice par l'expression l'amour des richesses. On peut être fortuné ou pauvre, mais il y a dans l'avarice un écueil pernicieux. L'apôtre Paul le précise dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. L'amour de l'argent est, en effet, la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Écueil donc à éviter. Comment? En prenant modèle sur le nommé Agur. Ces paroles sont rapportées dans le livre des Proverbes au chapitre 30. Je te demande deux choses. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Après avoir signalé l'écueil, Jésus encourage chacun à se confier en Dieu, le Père céleste. Je lis Luc chapitre 12, verset 22 et suivant. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps, car la vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave à provision ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Et il termine son encouragement par ces mots : votre Père sait que vous en avez besoin. Après l'avarice, il est un autre écueil qui consiste à faire étalage de sa générosité. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, verset 1er et suivant : gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Parfois, nous pouvons avoir des comportements incompréhensibles. De plus en plus, bon nombre de personnes font attention à ce qu'elles consomment. La nourriture dite bio est très recherchée, et c'est un plus pour la santé. Mais qu'en est-il pour notre âme ? Allons-nous, entre guillemets, gober n'importe quoi ? Voici la mise en garde adressée par Jésus à ses disciples. Matthieu chapitre 7, verset 15. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ?» Actuellement, la SNCF met en avant le slogan que vous avez certainement entendu. Attentif, ensemble. Cela pour prévenir des risques d'attentat. Alors, selon le conseil de Jésus, soyons attentifs à qui dit et quoi. D'autant plus que l'apôtre Paul a précisé ceci. Le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. De Timothée, chapitre 4, verset 3. Les prétendus prophètes ont des cousins germains. Jésus a dit, à leur égard, je cite, « Ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. » C'est pourquoi Jésus dit aux siens, Matthieu chapitre 16, verset 6 et suivant, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Puis, « Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ?» Alors les disciples comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ce que nous entendons, que nous écoutons, a une grande importance. Ce qui influence notre âme, qui la nourrit, qui peut donc soit la fortifier dans la foi, ou au contraire, lui inoculer un poison meurtrier, vaut bien un contrôle, une attention vigilante, afin de nous garder de tout écueil et du naufrage. Bien-aimé, qu'en pensez-vous ? Dans la première lettre à Timothée, l'apôtre Paul fait mention d'une situation de faillite. Je cite « Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. » 1 Timothée chapitre 1 verset 19. La conscience est la faculté que Dieu nous a donnée de discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. L'apôtre Paul associe la conscience à ce témoignage intérieur qui nous rassure ou qui nous accuse. Il précise qu'elle est comme une loi de Dieu écrite dans le cœur de tous les humains. Romains chapitre 2, versets 14 et 15, Bible français courant. Je lis. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans de Dieu, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent. Attention à ne pas bâillonner notre conscience, sinon le naufrage n'est pas loin. Après la page musicale, nous parlerons d'un homme qui a bien commencé sa course terrestre et malheureusement qu'il a mal fini. Comme annoncé, voyons maintenant la vie d'un homme qui a bien commencé et qui malheureusement a mal fini, car il a passé outre les avertissements donnés par le prophète. Petite info entre parenthèses, nous avons diffusé récemment un message ayant pour titre « Bien finir sa course ». Il est disponible sur le site web de la radio. Rubrique, émission, auteur Elios Michel, troisième jeudi. Ce jour, nous allons souligner les écueils sur lesquels cet homme a buté, du négatif pour en tirer du positif, dans l'oraison funèbre composée par David à l'occasion de la mort de Saül et de son fils Jonathan. David, à trois reprises, pose la question, comment des héros ont-ils pu tomber ? 2 Samuel, chapitre 1, verset 19 et suivant. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber ? Ne l'annoncez pas dans Gad. N'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon les filles des Philistins se réjouiraient. Les filles des incirconcis triompheraient. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment leurs armes ont-elles pu être détruites? Saül. Un homme exceptionnel, aux qualités nombreuses. David ne s'est pas réjoui de sa fin tragique. Preuve d'humanité, d'humilité et de sagesse. Exactement comme le conseille Proverbe chapitre 24 et verset 17, je cite « Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. » Saül a bien commencé faisant preuve d'une grande humilité. Dieu l'a désigné pour être le roi que demandait Israël. Lors de cette désignation, par tirage au sort, on a procédé en choisissant d'abord la tribu, puis le clan, puis l'individu. Saül, sachant qu'il allait être désigné, se cache derrière les bagages. Preuve d'humilité. Le prophète Samuel va le lui rappeler lorsqu'il est amené à le reprendre. Je cite Samuel chapitre 15 verset 17. Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Oui, il y a un témoignage positif de ses débuts en qualité de roi. 1 Samuel chapitre 14 verset 48. Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, Saül fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il montra sa force, battit Amalek et délivra Israël de l'oppression de ceux qui le pillaient. Mais, premier écueil, l'orgueil. Après 2 ans de règne, Saül part combattre les Philistins avec 2000 soldats. De son côté, Jonathan est à la tête d'une troupe de 1000 hommes. Et c'est Jonathan qui obtient un succès, battant la garnison qui se trouvait à Geba. Suite à cela, Saül fait sonner de la trompette dans tout le pays. Et il s'attribue la victoire. Tout Israël apprend que Saül a battu la garnison des Philistins. Attention, danger. Danger. Quand on cherche à amener sur soi la gloire qui revient à d'autres, elle revient en premier à Dieu, avec qui, dit le psalmiste, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Puis, il est important de reconnaître le travail des autres. Quelqu'un a dit ceci, le cimetière est rempli de gens qui se croyaient indispensables. Puis Saül va montrer de l'impatience. Suite à la chute de la garnison de Geba, les Philistins se mobilisent pour combattre. 30 000 chars, 6 000 cavaliers et des soldats aussi nombreux que des grains de sable au bord de la mer. Ils viennent camper à Michmas, à l'est de Beth-Aven. Saül et le peuple sont à Gilgal. Le prophète Samuel a dit qu'il vient dans 7 jours. Se voyant encerclé, le peuple a peur. Bon nombre s'enfuit. Et comme Samuel tarde, Saül ordonne de préparer les animaux pour le sacrifice complet et les sacrifices de communion, puis offre lui-même le sacrifice complet. Quand la cérémonie s'achève, Samuel arrive. Saül va au-devant de lui pour le saluer. « Qu'as-tu fait ?» lui demande Samuel. Réponse de Saül, « J'ai vu que les soldats m'abandonnaient et que tu n'étais pas venu au rendez-vous. De plus, je savais que les Philistins étaient rassemblés à Michmas. Alors, j'ai pensé qu'ils allaient venir nous attaquer au Gilgal avant que nous ayons pu nous rendre le Seigneur favorable. » C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité d'offrir moi-même le sacrifice complet. Samuel met, comme on dit, les points sur les i. Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu as reçu du Seigneur ton Dieu. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que ta famille règne pour toujours sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir, et il l'a désigné comme chef de son peuple, puisque tu n'as pas obéi à ses ordres. Saül ne sait pas attendre. Son impatience est nourrie par une forme de piété superstitieuse. Nous n'avons pas prié et la bataille approche. L'ordre était d'attendre. L'homme de Dieu allait arriver. Le temps perdu à agir par nous-mêmes dépasse de beaucoup le temps que Dieu demande d'attendre. Saül est vaincu dans l'épreuve de la foi. Peu de temps avant son ascension, Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et de préciser, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Attendre. Cependant, il y a urgence dans la mission à remplir et la tâche est immense. Mais si les disciples n'avaient pas attendu, s'ils étaient partis sans l'équipement divin, nous ne serions pas là aujourd'hui. L'impatience de Saül a produit la désobéissance. Pour se justifier, il déclare « C'est pourquoi j'ai pris la responsabilité d'offrir moi-même le sacrifice complet. » La charge royale n'incluait pas le service de l'autel qui était sous la seule responsabilité des sacrificateurs. La conséquence de sa désobéissance, il perd le royaume. Rappel de la déclaration du prophète Samuel. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir et il l'a désigné comme chef de son peuple, puisque tu n'as pas obéi à ses ordres. Orgueil, impatience, désobéissance. Quand Samuel le reprend, aucun signe ou parole de repentance. Alors, c'est l'engrenage fatal. Il va aller de désobéissance en désobéissance. Faisons une nouvelle pause musicale avant d'aborder la triste fin du roi Saül. Saül reçoit de Samuel l'ordre d'anéantir Amalek entièrement. Sauf que il épargne Agag, le roi, et tout ce qu'il y a de meilleur dans le bétail, bœufs, moutons, bêtes vigoureuses et agneaux. Ils ne détruisent que ce qui est sans valeur et sans intérêt. Après cette victoire en demi-teinte, Saül descend à Carmel et s'y érige un monument. Puis il se rend à Gilgal. Samuel arrive en urgence pour le reprendre. Saül l'accueille par ces mots. « Que le Seigneur te bénisse. J'ai exécuté l'ordre du Seigneur. » Réponse de Samuel. « D'où viennent donc ces bêlements de moutons et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» Nouvelle tentative de justifier la désobéissance. Style, ce n'est pas moi, ce sont les autres. De plus, ils avaient une motivation religieuse. Je cite Saül. Les soldats ont épargné les meilleures bêtes des Amalécites et ils les ont amenées ici pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. Tout le reste, nous l'avons détruit. Stop, dit Samuel. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Saül, dont la stature est imposante car il dépassait tout le monde de la tête et des épaules, se soucie de sa petite personne. Orgueil, orgueil, quand tu nous tiens. Nouvelle tentative de se justifier. Saül s'écrie, « Je suis coupable, j'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur. » Cela revient à dire en quelque sorte « Je suis coupable, mais c'est la faute des autres. » Samuel se tourne pour s'en aller, mais Saül le saisit par le pan de son manteau qui est arraché. Saül répète « Je suis coupable. Je t'en supplie, traite-moi avec respect devant les anciens et le peuple d'Israël. » « Reviens avec moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur, ton Dieu. » Notons deux choses. Saül veut faire comme si tout le monde, comme si tout allait bien, comme si le prophète entérinait la situation. « Traite-moi avec respect devant les anciens, le peuple d'Israël. » Deuxièmement, le Seigneur devient simplement le Dieu de Samuel. « Que je puisse aller adorer le Seigneur, ton Dieu. » Samuel cède, mais après cela, conséquence, Samuel ne revoit plus Saül avant de mourir. Celui-ci perd donc le bénéfice de la direction prophétique, puis il perd l'Esprit de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit, envoyé par l'Éternel. Sa solitude va générer la peur. Face à Goliath, Saül et avec lui ses soldats tremblent de peur. Après les exploits de David, la jalousie le gagnera, le remplissant d'une haine, le poussant jusqu'au meurtre. 1 Samuel 22, 18. Sur ordre de Saül, Doeg, le délateur, tue les prêtres de sa propre main, 85 hommes qui avaient le droit de porter les habits sacrés. Quant à Nob, la ville de ses prêtres, Saül y fit massacrer les hommes, les femmes, les enfants et les bébés, de même que les bœufs, les ânes, les moutons et les chèvres. Saül s'enfonce toujours plus. Il ne lui reste plus qu'à perdre la vie. Avant cette nouvelle bataille qui s'annonce, 1 Samuel 28, Saül a très peur et se met à trembler comme une feuille. privé de la direction prophétique comme de toute autre parole de Dieu, Saül va recourir au spiritisme. Dans son désarroi, il ordonne à ses officiers ceci. « Cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts pour que je puisse aller la consulter. » Rappelons qu'il avait interdit dans son royaume les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts, cela en accord avec le passage de Deutéronome chapitre 18, verset 11, texte qu'il avait dû écrire de sa main en sa qualité de roi. Déguisé et accompagné de deux hommes, Saül arrive de nuit chez la femme et lui dit « Je désire que tu interroges un mort pour moi. Fais apparaître celui que je vais t'indiquer. » Réponse de la femme, inquiète. « Tu sais bien que Saül a éliminé du pays les pratiques consistant à évoquer et interroger les morts. Est-ce que tu cherches à me tendre un piège pour me faire mourir ?» Afin de dissiper les réticences de la femme, Saül lui garantit, serment à l'appui, qu'elle ne court aucun risque. Question : combien d'individus dans le pays peuvent-ils lui faire un tel serment ? Un seul, le roi Saül en personne. Et Saül demande à être mis en contact avec le défunt prophète Samuel. Nous n'avons pas d'indication concernant le support utilisé par la femme pour sa prestation. Boule de cristal ? Miroir ? En voyant Samuel, selon les dires de la femme, elle déclare à son interlocuteur qu'il est Saül. La séquence continue et quand la femme évoque un vieillard enveloppé d'un manteau, Saül comprend qu'il s'agit de Samuel. Saül ne voit rien, mais il est persuadé d'avoir affaire à Samuel. Et l'échange qui a lieu anéantit Saül et le plonge dans l'épouvante. Le lendemain, il périt sur le champ de bataille. Et l'Écriture précise, premier livre des Chroniques, chapitre 10, verset 13, « Saül mourut parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Il avait négligé d'obéir à ses commandements et il avait même évoqué l'esprit d'un mort. » Question : qui est derrière cette réalité, puisque les morts n'ont pas de contact avec les vivants ? Nouvelle petite info entre parenthèses, cette question a été abordée dans une émission traitant de l'occultisme en général et du spiritisme en particulier. Vous pouvez écouter en replay cette réflexion sur notre site web, rubrique émission du mardi, et le texte du message est à votre disposition, soit en lecture directe ou téléchargée. Toutefois, si vous n'avez pas Internet, vous pouvez nous le faire parvenir sur simple demande. Nous pouvons vous le faire parvenir sur simple demande. Précision concernant le spiritisme. C'est la croyance à la communication possible avec les morts. Il s'articule autour d'objets animés, tels des tables tournantes ou des médiums qui font office de postes récepteurs. On peut comprendre que certains soient séduits par la pensée de garder une communion avec les défunts bien-aimés, sans parler de motifs cupides, car dans telle famille, le grand-père est parti sans dire où il avait caché la cassette contenant les pièces d'or. Quel éclairage nous en donne la parole de Dieu ? Voici ce qui est écrit dans Ecclésias chapitre 9, verset 6. Les morts ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est écrit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. » Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Ces choses étant posées, à savoir que les morts sont dans le repos et qu'ils n'interviennent pas dans le monde qui est le nôtre, posons à nouveau la question « Alors ?» Qui est derrière cette réalité puisque les morts n'ont pas de contact avec les vivants ? Réponse : ce sont des esprits de ténèbres, des démons. L'occultisme, sous ses diverses formes, tout comme l'idolâtrie, met les hommes en communion avec les démons. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 14, Bible français courant. « C'est pourquoi, mes chers amis, gardez-vous du culte des idoles. » Et Paul conclut sa mise en garde par ces mots. « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Il y a un danger bien réel et très grand. C'est la raison d'être des interdictions et des avertissements donnés par la parole de Dieu. Certes, il y a des charlatans avec des pratiques attrape-nigauds. Cela ne menace que notre portefeuille, mais d'autres sont réellement manipulés par le diable. Aucune manifestation surnaturelle ne peut procéder de l'esprit de l'homme. Rappelons simplement que lorsque Dieu met devant nous un sens interdit, ce n'est point pour nous frustrer, comme le diable le susurre à l'heure de la tentation, mais bien pour nous préserver, tout en éprouvant notre obéissance. Le mot de la fin sera celui-ci. Dieu ne peut pas nous sauver sans notre accord. Le diable ne peut pas nous ruiner sans notre complicité. Bien-aimés, que le Seigneur t'aide, avec sa grâce, à éviter les écueils que nous venons de répertorier et d'autres encore que l'Écriture souligne. Amen.